Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous commençons une nouvelle série intitulée « Quelques conseils que la Bible nous donne pour notre vie ». Quelques conseils que la Sainte Bible nous donne pour la vie. En analysant très scrupuleusement leurs pensées, des chrétiens sincères ont découvert que l'homme, en dépit d'une vie et d'expériences spirituelles intenses, est très souvent aux prises avec des pensées fort profanes, à commencer par les trois vices principaux que sont le besoin permanent de manger, donc la gloutonnerie, les fantasmes sexuels, la luxure et l'obsession de l'argent, ça veut dire la cupidité. Ensuite, les trois émotions que sont la tristesse, la colère, le découragement, on peut dire la déprime également, qui est inclus dans le découragement et la dépression. Et enfin, les deux vies spirituelles de la vaine gloire et de l'orgueil. Et si nous nous observons nous-mêmes bien attentivement, nous nous rendons compte que nous sommes nous aussi assaillis par ces mêmes pensées. Oui, c'est vrai. Je remarque simplement, avec un certain humour, il faut des fois avoir un peu d'humour, que malgré tous ses efforts, l'homme ne peut échapper au fait que d'autres tentations la hantent. Alors il cherche dans les Saintes Écritures, il cherche une citation qu'il choisit souvent avec un clin d'œil humoristique et sans trop raisonner, mais en la confrontant simplement à leurs propres tentations. Cette parole va alors les démasquer, les transformer et nous faire entrer en contact avec l'autre pôle de notre âme. Chacun de nous a en effet deux pôles en lui, la peur et la confiance, l'amour et l'agressivité, la discipline et l'indiscipline, la piété et l'impiété, le sacré et le profane. En intégrant les paroles de la Sainte Bible dans nos pensées négatives, nous entrons en contact avec la confiance, l'amour, la force, le sacré que nous avons déjà en nous, même si à ce moment, ce sont les pensées profanes qui s'affirme aussi fortement. Mes chers amis, la méthode antirétique, c'est-à-dire l'analyse des tentations auxquelles l'homme doit faire face, et cela n'a rien à voir avec celle du pouvoir de la pensée positive, telle qu'elle est pratiquée en Amérique, laquelle consiste à rejeter simplement toute pensée négative et à la remplacer par une pensée positive, un processus qui contraint à ne penser que de manière positive, ce qui est absolument contraire à la réalité. Or, l'échec est fréquent, car le pôle négatif qui se traduit souvent par la dépression se manifeste alors avec force. Il est un fait que la force bienfaisante de la Sainte Parole de Dieu va faire contrepoids à l'effet néfaste de la pensée. Nous partageons, pour ainsi dire, notre âme en deux, comme il est dit, par exemple, au psaume 42, verset 5. Pourquoi t'effondrer, mon âme, et gémir en moi. Espère en Dieu, car de nouveau je le célébrerai. Donc, nous nous tournons vers le côté affligé de notre âme pour nous réconcilier avec elle. Mais nous connaissons aussi son côté confiant et fort, et c'est avec lui que les mots de la Sainte Bible nous font entrer en contact. Lors de la tentation, Satan suggère certaines paroles à Jésus pour l'inciter à montrer aux hommes sa toute-puissance et sa grandeur. Aux paroles négatives du tentateur, qui va jusqu'à fausser carrément les paroles bibliques en leur donnant un sens tout personnel, Jésus oppose des paroles de l'Écriture sainte qui retirent tout pouvoir à celles de Satan. Mais Jésus, lui aussi, connaît la tentation, cette tentation qu'il nous faut affronter sans cesse. Nous devons compter avec elle et ne pas avoir l'arrogance d'imaginer simplement que puisque notre spiritualité est solide et que nous sommes capables de penser positivement, nous n'avons plus aucun problème avec les modèles de pensée négative. Nous savons que des pensées insensées, parfois même pénibles, surgissent en nous, dont nous avons honte, et qu'il en est ainsi, bien que certains croient de pouvoir nous faire croire qu'ils sont d'une perfection absolue. Voyez-vous, il faut de l'humilité, il faut même un peu d'humour pour affronter tout ça. Nous aimerions bien mieux nous entretenir de nos expériences et de nos progrès psychologiques ou spirituels. Néanmoins, nous ne sommes pas livrés aux pensées négatives avec la Sainte Bible. Pas du tout. Dieu nous offre un manuel de guérison qui comporte des mots parfaitement adaptés à nos pensées chaotiques qui peuvent les transformer lentement dès lors que nous les leur opposons carrément. Donc, premièrement, prenons par exemple la gloutonnerie. Nous avons la barre de chocolat l'après-midi pour assouvir une petite faim. Pour lutter contre la pensée qui me pousse à la gloutonnerie, de manger à la 9e heure, voici ce que la Bible nous dit. C'est écrit dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 35, suivant les versions bibliques, mais n'ayez peur, il n'y a que des synonymes qui changent, et les synonymes veulent simplement dire la même chose avec des mots un peu différents. Alors, il est dit dans 2 Samuel 3, verset 35, « Qu'ainsi me fasse Dieu !» Et pire encore, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Chers amis, une sensation de faim s'empare parfois de nous durant la journée, qu'il nous faut assouvir coûte que coûte, c'est ce que nous pensons, en attrapant par exemple une barre de chocolat ou autre chose, ou ce qui nous tombe sous la main, ou bien en plein travail, nous sommes interrompus par une envie de sucrerie qu'il nous faut satisfaire pour pouvoir continuer. Ne sommes-nous pas en droit de nous accorder un petit quelque chose alors que nous travaillons tellement? Mais si nous montons sur la balance de temps à autre, et c'est mon cas, nous pestons contre ces petits extras. Dans cette situation, la suggestion explicite pourrait nous aider. Je ne mangerai pas avant le coucher du soleil. Si nous ne nous nourrissons pas à des heures fixes, eh bien sûr, nous risquons de picorer sans cesse pour tromper notre ennui. Deuxièmement, un autre cas. Lorsque le placard à provisions est vide, ça peut arriver. Alors pour lutter contre la pensée que me cause le souci de manquer de pain, de manquer d'huile et d'autres ingrédients dont j'ai vraiment envie, eh bien le vieux livre nous dit, The Old Book, le vieux livre, dans 1 Roi chapitre 17 verset 14, cruche de farine ne s'épuisera, ni jarre d'huile ne se videra, jusqu'au jour où Yahvé l'Éternel enverra de la pluie sur la face du sol. 1 Roi, chapitre 17, verset 14. Quelle est la femme qui ne s'énerve pas de toujours trop remplir son caddie? Et cela par peur, évidemment, de manquer au cas où, et de constater ensuite que bien des denrées s'abîment et doivent parfois être jetées. Elle se dit chaque fois qu'elle va en acheter moins, mais elle n'y arrive pas. Je me rappelle, en effet, le conseil prodigué par le prophète Élie à la veuve de Sarepta, qui redoute de ne pas avoir assez de farine et d'huile. Il me semble que je n'ai pas besoin de remplir mon réfrigérateur à ras-bord. Je trouverai toujours de quoi apaiser ma faim. Troisièmement, un autre exemple. Lorsque on attrape le sachet de chips, oui, pour lutter contre les pensées qui s'emparent de moi, telles que ne t'impose pas une vie si rude et n'use pas ton corps fragile par un jeûne et des efforts permanents. La Sainte Bible nous dit, dans le psaume 49, verset 10, et l'on vivrait toujours sans jamais voir la fosse. Mais on la voit. Les sages meurent, mais le sot et le stupide périssent également. Psaume 49, verset 10. Il est donc vrai que les occasions de se saisir d'un paquet de chips ne manquent pas. Nous ne voulons pas toujours être durs et cruels envers nous-mêmes. La vie est déjà assez pénible et nous avons envie de nous faire plaisir. Autant de bonnes raisons pour une juste cause, mais qui malheureusement nous conduit à penser qu'il nous faut assouvir immédiatement chacun de nos besoins. Et au final, nous nous agaçons de devoir courir sans arrêt après notre poids idéal. Dans une telle situation, les conseils peuvent nous sembler paradoxaux, ce qui en appelle à la force qui est en nous, celle d'entretenir un bon rapport avec la nourriture et avec la boisson. Quatrièmement, un autre exemple. Devant le congélateur qui est bien garni, pour lutter contre la pensée qui se préoccupe de la nourriture et de la boisson et se donne du mal pour se les procurer, la Sainte Bible nous dit dans le psaume 55, verset 23, « Décharge-toi sur Yahvé l'Éternel, décharge-toi de ton fardeau, et lui, Dieu, te soutiendra. » Psaume 55, verset 23. Voyez-vous, tout occupé à son travail, une femme, en avait oublié de faire ses courses et elle se trouvait sans eau minérale et sans pain à la veille du week-end. C'est pas drôle du tout. Alors elle se jura, oh, que cela ne lui arriverait plus jamais. Mais elle n'a désormais plus qu'une seule idée en tête, c'est de faire des réserves. Je t'encourage simplement à te répéter ceci. Décharge-toi sur Yahvé l'Éternel. Décharge-toi sur Dieu de ton fardeau et lui te soutiendra. Ce verset du psaume ne résout pas tous nos problèmes, mais il va agir sur notre âme. On peut même imaginer qu'il lui prodigue ce conseil avec un clin d'œil. Nous ne devons pas nous acharner à trouver une solution à tous nos problèmes. Mais le fait de confronter ces mots de la Sainte Bible à notre inquiétude, cela va nous transformer. Cinquièmement, un autre exemple. Qu'y a-t-il à manger aujourd'hui? Il n'y a que du pain? Du pain seulement? Oh, eh bien, ce n'est pas ça qui va me rassasier. Alors, pour lutter contre cette pensée qui m'amène à déplorer de n'avoir qu'un repas frugal ou seulement du pain sec à manger, la Sainte Bible dit, dans le Proverbe chapitre 17, verset 1, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec de la dispute. » Oh là là, j'en sais quelque chose. En matière de nourriture, nous avons nos exigences. Et lorsque il n'y a que du pain, c'est trop peu pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, si je mange consciemment ma tartine beurrée, je serai sensible au bon goût du pain. Je peux avoir plaisir à manger seulement du pain à condition de le mâcher méticuleusement. Donc, mieux vaut un morceau de pain sec avec la tranquillité qu'une maison pleine de viande avec la dispute. Je pense à l'attitude intérieure que nous avons lorsque nous mangeons, car le meilleur des repas ne nous comblera pas si nous le prenons dans la discorde. Un homme m'a parlé d'un repas de Noël dans son département au sein d'une grande entreprise. Le chef avait convié ses collaborateurs dans un restaurant très coûteux, mais il n'avait parlé que de lui, de sorte que plus personne n'a voulu ensuite se rendre aux fêtes. Si l'ambiance n'y est pas, le repas aussi délicieux soit-il, ne servira à rien. Et sixièmement, pour terminer notre petite étude, voici une situation délicate. Faire du slalom entre les indigents dans les couloirs du métro. En effet, pour lutter contre la pensée qui m'empêche de partager ma nourriture et mes vêtements avec un pauvre que je viens de croiser, parce que ce que je possède ne suffirait pas pour nous deux, ou encore parce qu'il y a certainement un plus nécessiteux encore qui mériterait ma générosité peut-être davantage que celui-ci, qui aspire peut-être à se nourrir et se vêtir sans se donner de mal. Or, voici ce que la Sainte Bible nous dit. Dans Saint Luc, chapitre 3, verset 11, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a des aliments fasse de même. » Saint Luc, chapitre 3, verset 11. Voyez-vous, il se peut que le miséreux que je rencontre dans les couloirs du métro appartient peut-être à un réseau très organisé de mendiants. Il se peut aussi qu'il ne cherche que à m'exploiter, va savoir. Alors je me contente de nous rappeler que Jésus nous exhorte à partager ce que nous possédons. Celui ou celle avec qui je partage le mérite-t-il vraiment? Va-t-il en faire un bon usage? Or, en priant, le Saint-Esprit va nous inspirer et il va nous montrer quelle est la réalité de tout cela. Chers amis, nous allons maintenant terminer par la prière et j'aimerais vous dire la strophe d'un très ancien cantique, ensuite nous prierons, et j'essayerai de vous mettre quelques chants d'un assez lointain passé, 1965, et en ce temps-là, il n'y avait évidemment pas de CD. Voici donc la strophe du cantique ancien. Jésus-Christ vient pour régner et délivrer l'Église. Bientôt, il va la couronner de la gloire promise. Ne crains donc point, petit troupeau, toi que chéris le Père, que toujours la croix de l'agneau soit ta seule bannière. Gloire à Jésus-Christ, mon Sauveur, car en lui seul j'espère. Heureux c'est lui qui, dans son cœur, l'adore et le révère. Prions. Sanctifie nos pensées, Seigneur, nos affections, nos volontés et nos désirs. Nous te rendons grâce de ce que nous pouvons nous approcher de toi avec confiance, au nom de celui par lequel nous avons toujours accès auprès de toi. Rends-nous seulement plus fidèles, Seigneur, à profiter des privilèges que tu nous offres. Que de fois, au moment où nous voudrions nous approcher de toi, nous nous laissons détourner par quelque distraction futile ou par quelque pensée coupable. Pardonne-nous, Seigneur. Remplis tellement nos âmes de ta présence qu'il n'y reste plus de place pour de telles pensées. Que nous vivions dans l'activité chrétienne, dans la vigilance et dans l'attente de notre Sauveur, et que dans cette attente, nous affermissions nos cœurs. Avec quelle ardeur ne regarderions-nous pas à ce glorieux retour, si Jésus était réellement l'objet suprême de nos préoccupations et de nos affections. Donne-nous de vivre comme des enfants de la lumière et des enfants du jour, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut, nous souvenons que tu ne nous as pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur et Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est en son saint nom que nous nous t'invoquons pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous appartiennent. Amen. Et maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques chants d'un lointain passé.
whoso offereth praise, glorifieth me. Whoso offereth praise, glorifieth me. And to him that ordereth his conversation aright, will I show the salvation of God.
Whoso offereth praise, glorifieth me. Whoso offereth praise, glorifieth me. And to him that ordereth his conversation aright, will I show the salvation of God. Whoso offereth praise, glorifieth me.